Monsieur le Président, faites une année blanche déjà pour les intermittents, pour qu'ils ne se retrouvent pas à la rue. Essayez de voir avec les assureurs comment on peut reprendre le boulot. C'est une nourriture, c'est tellement important, la culture.
À l'image de Jean-Paul Rouve, tout le secteur culturel implore le Président de la République. Celui-ci doit s'entretenir avec des artistes et faire des annonces. Le télétravail à temps plein pour 5 millions de Français depuis mi-mars. Des syndicats réclament de revoir les règles pour éviter stress et horaires à rallonge. Les avions sont toujours au sol, mais avec les futures règles sanitaires à bord, c'est le prix de votre billet qui risque de décoller.
Un avion qui vole à moitié vide, on peut imaginer que les tarifs soient deux fois plus élevés. On passerait d'un aller-retour qui serait à 600-700 euros, on atteindrait les 900 ou 1000 euros.
Lui n'a pas eu de problème pour atterrir et se faire soigner en France. Le Premier ministre ivoirien, objet de toutes les spéculations. Et puis, le foot est un sport qui se joue à 11 contre 11. C'est l'Allemagne qui va y jouer, bien avant les clubs français. Projet d'accord avec Angela Merkel, mais inquiétude de certains joueurs.
Je pense que si on n'est pas à 100% sûr d'être à l'abri de cette épidémie, il faudrait pas reprendre.
À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Vous dialoguez avec elle. Ensuite, vous avez des questions concrètes à partir de 8h30, 39-21 et le hashtag Radio Ouverte. À 8h45, Nicolas Canteloup et sa revue de presse. Il est 8h02 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1, écoutez le monde changer.
C'est bien connu, la culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Sauf qu'en ce moment, difficile d'en faire des tartines sur ce que l'on est allé voir récemment au ciné ou sur le prochain festival qu'on a réservé.
La culture, ce n'est pas juste un moyen d'alimenter son esprit. C'est un secteur économique, une industrie qui emploie 1 300 000 personnes. Emmanuel Macron doit faire des annonces aujourd'hui. Il a lui-même placé la barre très haut. Jean-Rémy Baudot.
Il y a des tweets qui créent trop d'attentes. Samedi dernier, Emmanuel Macron publie un message où il promet d'accompagner les artistes, de les soutenir. Il évoque, je cite, « des premières décisions en ce sens mercredi ». Le monde du spectacle se sait en sursis, l'intermittence, la création, l'incertitude d'une reprise dans un secteur où les gestes barrières sont quasi impossibles. Au sein de l'exécutif, on connaît l'enjeu. Personne ne sera laissé sur le bord du chemin, promet hier à l'Assemblée le ministre de la Culture Franck Riester. Sauf que concrètement, rien pour le moment. Dans l'entourage du président, on prend conscience que ce tweet a généré énormément d'attentes, sauf qu'il est trop tôt. Il ne faut pas se tromper, on n'en est pas encore à annoncer un plan de relance, explique l'Élysée. Comprendre, la culture est importante, mais il faut tout de même d'abord sauver l'hôpital. Ce matin, il y aura probablement quelques annonces, des mesures pour les intermittents, des aides pour le spectacle vivant, pour l'édition, le report de la réforme audiovisuelle. Mais Emmanuel Macron a surtout prévu d'écouter les artistes, leurs difficultés. Pas sûr que cela suffira pour convaincre le monde de la culture qu'il ne sera pas le grand oublié de la crise actuelle.
Et un comédien est en direct avec nous dans le journal de 8h d'Europe 1. Bonjour Philippe Torreton.
Bonjour Mathieu Béliard.
Ça y est, le président au chevet du monde de la culture. Hein. Les intermittents nombreux qui espèrent du soutien, les cinémas, les salles de spectacle qui attendent une date, des conditions de réouverture. On a parlé du besoin de culture de la population et du rayonnement français. Mais c'est l'argument économique qui prime ce matin.
Si c'est l'argument économique qui doit primer, alors dans ce cas-là, il devrait prendre des mesures. Quand je dis « il », le président, mais aussi donc son gouvernement, devrait prendre des mesures absolument pérennes dans le temps. Moi, je pense qu'il faut aller vers l'année blanche pour tous les intermittents. Il faut absolument sauver, comme vous le disiez, dans le chapeau du sujet, tout le secteur. Ce sont les tournages, ce sont les tournées théâtrales, réouvrir les théâtres en septembre. Garantir les droits des intermittents qui ne peuvent pas travailler depuis le confinement, qui devaient travailler dans tous les grands festivals et les petits et les moyens festivals. Et donc ce sont des dizaines et dizaines, voire des centaines de manifestations estivales qui ne peuvent pas avoir lieu. Donc tous ces spectacles devaient ensuite avoir une prolongation pendant l'année, dans les tournées et les théâtres de France et de Navarre. Donc et garantir les droits des intermittents. Et ça ne pourra pas avoir lieu. Donc il faut absolument une année blanche.
Et vous avez des propositions, Philippe Torreton, ce matin sur Europe 1. Vous proposez au gouvernement une forme de mécénat pour permettre la relance des théâtres, offrir des places aux plus jeunes.
Oui, parce que dans le cas où la réouverture pourrait se faire sous certaines conditions sanitaires, bien sûr, dans les théâtres, à partir de septembre, le public des théâtres est souvent un public dit senior. Enfin, la moyenne d'âge du public est assez élevée, donc parmi eux, pas mal de personnes dites à risque. Et à ces amateurs de théâtre qui ne préféreront pas aller au théâtre malgré la réouverture de ces lieux, de leur proposer d'être des mécènes particuliers, individuels, et des parrain. En ce sens, c'est-à-dire, vous comptiez aller au théâtre à partir de septembre pour voir tel ou tel spectacle, eh bien, achetez là ou les places que vous auriez achetées et offrez-les ces places à quelqu'un de votre famille qui court moins de risques que vous. Si tant est qu'il y ait des risques, peut-être le risque sera minimum, mais on ne peut pas exclure qu'il y ait encore des risques en septembre, en octobre et en novembre. Et offrez-la à quelqu'un de plus jeune. Et ainsi, vous sauvez l'économie du théâtre et vous permettez à quelqu'un de découvrir un spectacle et peut-être créer des envies. Mais je pense qu'il y a c'est quelque chose d'assez simple à mettre en place, de faire un appel de la nation à tous ces gens qui pourraient aller au théâtre, mais qui n'oseront pas encore.
Et qui pourront permettre ainsi à des plus jeunes de découvrir les salles de théâtre.
De devenir le futur public du théâtre de demain. Moi, je pense qu'il faut, essayer de tout renverser, toutes les difficultés. C'est comme dans les arts martiaux. Voilà, on profite de la force de l'adversaire pour la retourner contre lui. Voilà. Imaginons des choses simples comme ça. Moi, je pense que c'est assez simple à mettre en place.
On attend les propositions, les annonces du président de la République. En attendant votre proposition ce matin sur Europe 1, Philippe Torreton, invité du journal de 8h en direct ce matin. Merci beaucoup.
Et les artistes, ils en sont souvent réduits à faire de la musique de chambre au sens propre qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux, une forme de télétravail finalement, pas toujours dans les meilleures conditions. 3 télétravailleurs sur 10 estiment que leur santé psychologique ou physique se sont dégradées pendant le confinement, selon un sondage CSA publié ce matin. Olivier Samin.
5 millions de télétravailleurs aujourd'hui, dont les 2/3 n'avaient jamais expérimenté la formule avant ce 17 mars 2020. Pour eux, le basculement s'est fait sans préparation. Une forme de télétravail à l'arrache, source pas toujours mais souvent quand même de stress, de souffrances physiques et d'horaires à rallonge. Loin de la logique voulue par le patronat et les syndicats quand ils avaient posé les jalons du télétravail, c'était en 2005. Il faut donc revoir les règles, disent aujourd'hui plusieurs syndicats. Marie-Josée Kotlicki est la secrétaire générale des ingénieurs et cadres CGT.
Il y a le droit à déconnexion inscrit dans la loi et qui n'est toujours pas appliqué. Et puis il y a ces conditions de télétravail généralisées et ce basculement en période de confinement. Donc on voit bien qu'il y a des choses nouvelles à faire et donc il faut un nouvel accord national immédiatement pour cadrer les choses et mettre à égalité les salariés, quelle que soit la taille des entreprises ou leur situation géographique.
La crainte des syndicats, c'est que si rien n'est revu à brève échéance, les mauvaises pratiques nées de la précipitation du 17 mars risquent de s'ancrer dans les entreprises quand l'activité retrouvera son mode normal. Le gouvernement ne souhaite pas légiférer sur le sujet, mais si une négociation s'engage, il la verra, nous dit-on, d'un bon œil.
Alors peut-on changer les règles du télétravail ? Juste après ce journal, Muriel Pénicaud est en direct sur Europe 1, la ministre du Travail, qui répondra à vos questions, à vos témoignages à partir de 8h30. Vous appelez le 3921.
Lui réaffirme ses engagements de long terme. Le patron de Michelin le dit, la crise sanitaire ne doit pas prendre le pas sur les efforts pour améliorer positivement notre empreinte sur l'environnement. Florent Ménégaud, président du groupe Michelin, qui était l'invité d'Europe 1 il y a moins d'une demi-heure. On reste dans les transports avec cette crainte de l'association du transport aérien. Le prix des billets pourrait augmenter de 7% et ce n'est qu'une moyenne en raison des consignes de laisser un siège vide entre deux passagers. Les précisions de Xavier Titelman, consultant aéronautique chez CGI Consulting.
Un avion qui vole à moitié vide, on peut imaginer que les tarifs soient 2 fois plus élevés et donc ça renchérisse le prix du billet d'avion et que les personnes les moins fortunées soient les premières qui subissent cette situation et qui ne puissent plus voyager normalement. On passerait d'un aller-retour qui serait à 600-700 euros, on atteindrait les 900 ou 1000 euros pour un aller-retour Paris-New York. Après, les compagnies low-cost qui ont des tarifs qui sont beaucoup plus avantageux où on peut faire l'aller-retour à moins de 400 euros, peut-être que de la même manière, si elles augmentent leur tarif de 25%, ça va être 500 euros au lieu de 400, forcément l'écart se creuse et l'espacement imposé des passagers dans les avions sera quelque chose qui fait que les compagnies low-cost seront encore plus avantageuses pour les voyageurs, surtout s'ils regardent encore plus qu'avant leur porte-monnaie.
Et de son côté, Airbnb supprime 1900 postes, soit un quart de ses effectifs dans le monde. Notre regard quotidien sur le nombre de patients sortis guéris des hôpitaux français, 52 700 personnes depuis début mars. Par ailleurs, on a enfin la date de sortie de l'application de traçage Stop Covid. Ce sera le 2 juin.
Europe 1. Vous restez bien sur Europe 1 dans un instant. Le Premier ministre ivoirien soigné à Paris. Le regard de Vincent Hervouet à suivre. Il est 8h11 sur Europe 1, la suite du journal avec une coronarographie. C'est l'examen subi à Paris par le Premier ministre de Côte d'Ivoire, la coronarographie. J'y arrive pas une deuxième fois. Il est à la Pitié-Salpêtrière, officiellement pour un suivi médical, selon la présidence ivoirienne.
Mais il restera plusieurs semaines en France, alors forcément, du côté d'Abidjan, on se pose des questions, Vincent Herbouette.
Quand l'info a filtré, une tempête de rumeurs s'est levée sur les réseaux sociaux. À Abidjan, la présidence a dû confirmer que le Premier ministre était parti se faire soigner à l'étranger. Elle a voulu rassurer en parlant d'un examen de routine. Mais il faut être malade pour venir aujourd'hui en Europe, dont les frontières sont fermées, pour gagner la France parmi les pays les plus touchés par le virus, pour atterrir à Paris, en zone rouge, et filer à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, un vrai bouillon de culture. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est arrivé dimanche au Bourget, dans son jet. Il était fatigué, il était inquiet, son cardiologue l'a rassuré, et il l'a gardé sous observation.
Et il a donc un peu de temps pour se reposer.
Qu'il dorme d'un œil seulement, Amadou Gan Coulibaly est l'héritier que vient de choisir le président Alassane Ouattara pour lui succéder en octobre. Ses rivaux rappellent qu'il a le cœur fragile. C'est un handicap quand on veut devenir président, d'avoir trop de cœur. Ses adversaires dénoncent les dirigeants qui se font soigner à l'étranger, faute d'avoir construit des hôpitaux à la hauteur. À Paris, 60 ans après l'indépendance, on est content d'offrir le gîte et le couvert. Offrir, c'est un grand mot. Il faudra penser à régler la consultation et aussi applaudir à 20h. Le système hospitalier français porte bien son nom. Il est hospitalier, mais il est ruiné.
Le regard international de Vincent Herbouette, c'est tous les jours dans le journal de 8h d'Europe 1.
On reste à l'étranger, mais pour un jeu que les supporters du monde entier rêvent de revoir en direct sur leur télé. Il s'agit bien sûr du football.
On apprend ce matin que l'Allemagne compte autoriser la reprise de son championnat avant la fin du mois. Un projet d'accord entre Angela Merkel et les clubs de Bundesliga est révélé par l'AFP. Mais en Allemagne, tous les joueurs n'y sont pas favorables. Et ce, malgré les mesures sanitaires assez strictes déjà annoncées. Comme Marcel Tisserand, qui est défenseur à Wolfsburg et joint par Cyril de la Morinerie.
Je pense que si on n'est pas à 100% sûr d'être à l'abri de cette épidémie, il ne faudrait pas reprendre. Au cas où, si jamais ça devrait reprendre, on serait... Je pense en bonne forme, au vu des entraînements qu'on a déjà fait depuis jusqu'à maintenant.
Marcel Tisserand, un joueur français de Bundesliga.
Merci beaucoup François Geffrier, c'était le journal de 8h et après le sport professionnel, on va parler du sport amateur et associatif entre 9h et 9h30. Quelle reprise ? Tiens, vous êtes vous-même membre d'un club, membre d'une association sportive, dites-nous quelle reprise vous organisez à partir de lundi prochain. C'était le journal de 8h, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. À 5 jours de la date prévue du déconfinement, objectif, préparer le redémarrage de la vie économique, mais pas comme avant, du moins dans les premiers temps. Notre invité, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, ou plutôt la ministre du Télétravail ce matin.
Qui répondra ensuite à vos questions. N'hésitez pas, 3921, le hashtag Radio Ouverte. A tout de suite sur Europe 1. h 16 sur Europe 1. Votre invitée Sonia Mabrouk, c'est la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.
Bonjour Muriel Pénicaud.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Et merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Dans 5 jours, normalement, la France entamera un déconfinement progressif. Le dispositif massif du chômage partiel va se poursuivre. Est-ce qu'on a atteint, Madame la ministre, ce matin, un cap ? Très haut d'ailleurs, de 12 millions de salariés sous ce statut.
Alors ce matin, on a des demandes de près d'un million d'entreprises, 998 000, concernant 12 100 000 salariés. Donc effectivement, je pense qu'on est proche, j'espère bien, du palier et qu'on va assister progressivement à une décrue du chômage partiel, en même temps qu'on aura une croissance de ceux qui peuvent retourner au travail et qui, ce faisant, vont aussi... protéger l'emploi, protéger l'activité économique de demain.
Dans certains secteurs, avez-vous dit, Muriel Pénicaud, le chômage partiel sera maintenu à taux plein après le 1er juin. De quel secteur s'agit-il ? Hôtellerie et restauration, on l'imagine, à l'arrêt depuis mi-mars, mais encore ?
Oui, il y a certains secteurs qui, parce que leur métier même, c'est la convivialité, le brassage et qu'on se rencontre, ne pourront pas tout de suite redémarrer. Donc tous ceux qui sont encore frappés d'interdictions administratives, pour des raisons de santé publique, je pense à l'hôtellerie, restauration, mais aussi à l'événementiel, à d'autres secteurs proches, vont continuer à bénéficier du chômage partiel à taux plein, le temps qu'il faudra et en fonction évidemment de la date où on pourra les réouvrir.
Pour les autres, Muriel Pénicaud, les entreprises vont contribuer au salaire. À quelle hauteur? Vous avez dit que c'était dans des proportions raisonnables. Et qu'est-ce qu'une proportion raisonnable?
Bien, on a mis en place en France, pendant le confinement, un chômage partiel inédit, massif, comme on n'a jamais fait, qui est le plus protecteur d'Europe. Le plus protecteur pour les salariés, parce que 100% de son salaire au SMIC, 84% au-dessus, on est le seul pays d'Europe à payer aussi haut, je dirais, la proportion de salaire. Et c'est l'État qui le paye, le ministère du Travail, qui paye les salaires. Mais du côté des entreprises, il est très protecteur aussi, puisque 100% de ces sommes sont remboursées aux entreprises jusqu'à 4,5 fois le SMIC. À partir du moment où le pays se remet en route, que le moteur économique repart, que des écoles, des transports se mettent en place, que la vie économique peut redémarrer, il est logique qu'à un moment donné, on accompagne toujours par le chômage partiel la reprise de l'activité, pour que ça soit pas brutal, mais qu'en même temps, progressivement, les employeurs qui peuvent ouvrir leur entreprise, qui peuvent amplifier leur activité, contribue. Mmh. Alors ça sera raisonnable, nous ne l'avons pas encore décidé, nous l'annoncerons très prochainement, ça sera raisonnable et progressif. Moi mon but c'est clair, c'est de ne pas avoir de rupture. On a protégé massivement, maintenant pour protéger massivement, ce qui est le mieux c'est le retour à l'emploi. Et on va accompagner ce retour au travail par du chômage partiel, mais dont le remboursement aux entreprises sera légèrement diminué progressivement.
Justement, vous dites protéger. Le chômage partiel joue son rôle d'amortisseur social, mais à un moment, Muriel Pénicaud, des entreprises, des petites structures, à contre-cœur, bien sûr, vont licencier parce qu'elles seront complètement sous l'eau. Est-ce qu'il faut se préparer, malheureusement, à des prochains chiffres encore plus douloureux du chômage dans les prochains mois?
Vous savez, si on n'avait pas mis en place ce chômage partiel massif et universel, puisqu'on a ouvert à des tas de catégories de salariés qui n'avaient pas droit, je pense que malheureusement, on aurait déjà des niveaux de licenciement qui serait extrêmement élevé. Mmh. Si je compare aux États-Unis, même à proportion relative, en un mois, c'est 30 millions de personnes qui ont perdu leur emploi aux États-Unis. Ça serait l'équivalent de 4 ou 5 millions en France. Donc cette phrase-là, je dirais, on a réussi à avoir un filet de sécurité massif qui protège les salariés, mais qui protège aussi les entreprises, puisqu'elles gardent leurs compétences. Maintenant, il y a un moment donné, je crois que c'est notre capacité, avec un esprit entrepreneurial, à tous y aller, en protégeant les salariés, on a toutes les conditions sanitaires pour le faire, mais à repartir sur le plan économique, qui va faire la différence. Et c'est ça qui évitera le plus.
On entend votre volontarisme.
Il y en aura forcément un peu, mais il y en aura beaucoup plus si le moteur économique ne repart pas.
Mais il y en aura malheureusement forcément un peu. Avec la reprise de l'activité, je voudrais vous faire réagir ce matin, Madame la Ministre, à une note de l'Institut Montaigne, qui reprend quelque part l'appel du MEDEF. Alors il ne s'agit pas d'un retour uniforme et généralisé aux 39 heures, mais l'Institut Montaigne dit qu'il faudra bien peut-être supprimer des jours de congé ou étendre des horaires pour les services publics. Est-ce que vous vous posez la question du temps de travail? Est-ce que ces propositions, peut-être, vont venir sur votre table?
Moi, ma priorité, c'est l'emploi. L'emploi, il y a aujourd'hui donc 12 millions de Français qui doivent pouvoir repartir au travail pour eux-mêmes et pour sauver l'économie et sauver l'emploi. Ça, c'est la priorité absolue. Après, quand tout va redémarrer, j'espère le plus vite possible, il y a peut-être des secteurs qui vont être en forte tension parce que ça fait deux mois, que l'activité n'est pas là. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le problème du jour. Le problème du jour, c'est retour au travail et sauver l'emploi.
Mais je comprends les urgences. Malgré tout, est-ce que la question du temps de travail se posera et qu'elle pourra se poser dans ces termes-là en réfléchissant justement à une suppression peut-être d'un jour férié?
Il y a déjà beaucoup de possibilités dans la loi, par la négociation. Moi, je reviens au dialogue social, qui est pour moi le maître mot de la réussite de la reprise du travail. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans les branches et dans les entreprises. Par exemple, il y a déjà un quota de plus de 200 heures supplémentaires défiscalisées sans charge sociale qui existe. Donc, il y a déjà beaucoup de possibilités. On peut négocier une annualisation du temps de travail. Tout ça, avec le dialogue social, les entreprises qui ont un bon dialogue social, elles le font déjà. Elles aménagent déjà le temps de travail. Alors utilisons déjà toutes les possibilités de la loi et du dialogue social. Mettons les conditions pour que chacun puisse repartir au travail en étant sécurisé sur le plan sanitaire. Et je crois que quand on aura fait ça, bien on verra que le paysage aura changé.
Alors, avec la reprise de l'activité, beaucoup d'employeurs, Muriel Pénicaud, redoutent de se voir condamnés pour une contamination de leurs salariés. Malgré des efforts pour protéger leurs employés, ils vous ont demandé via un courrier de sécuriser juridiquement leur situation. Que leur répondez-vous ce matin?
Alors, c'est un débat que nous avons eu toutes ces dernières semaines. Ce que nous avons confirmé sur le site du ministère du Travail, ce que j'ai pu confirmer aux employeurs, c'est que la loi actuelle et la jurisprudence met déjà les responsabilités de façon très claire. Un employeur, il est chargé de veiller à la santé et à la protection de ses salariés. Il a une responsabilité dans ce domaine, notamment sur ce qui dépend directement de lui. L'organisation du travail, les outils de travail, le rythme de travail et de façon générale la gestion de l'activité. En ce qui concerne un risque qui est en plus pandémique, qui est donc dépasse complètement le monde du travail, il n'a pas d'obligation de résultat. Il a une obligation de mettre en place les conditions.
Oui,
et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pour ça que nous avons publié dimanche un protocole de déconfinement pour toutes les entreprises et que nous avons publié déjà une cinquantaine de guides par métier, parce que évidemment, comment on se protège quand on est coiffeur, caissière, chauffeur livreur, c'est pas la même chose. Donc une fois qu'on a dit ça, la jurisprudence le confirme. Donc il y a une partie de cette inquiétude qui n'est pas fondée en droit, je le dis.
Madame Pénicaud, si un employeur...
Et après, il y a une inquiétude, et donc on est en train de regarder. Ah. Et l'idée, c'est quand même pas d'atténuer la responsabilité des entreprises.
Mais ils ne vous le demandent pas, ils ne vous demandent pas d'être exonérés de cette
éventuellement
responsabilité.
Éventuellement, la clarifier. On peut regarder. Donc, on peut regarder. Mais on ne veut atténuer les responsabilités de qui que ce soit, je pense, ne serait pas... Au moment où tout le monde doit être très responsable pour aider à repartir... je pense que ça ne serait pas un bon signal.
Mais en revanche, vous allez vers une clarification de la législation. Je prends juste un exemple. Si un employeur respecte à la lettre le protocole national de déconfinement du ministère du Travail que vous avez édité, il ne devrait pas logiquement encourir de sanctions pénales. Vous êtes d'accord?
C'est une... Alors, non, l'obligation, la responsabilité pénale, c'est autre chose. Ce dont vous parlez, c'est la responsabilité civile. Je ne vais pas rentrer dans le débat technique. Mais je crois qu'on peut dire oui, qu'un employeur qui respecte le guide métier qui s'applique dans son métier spécifiquement et le protocole de déconfinement, il y a tous les indices pour dire qu'il a complètement rempli son obligation de moyens.
Sauf que c'est laissé à l'appréciation
du juge. Et puis, plus important encore, il a protégé ses salariés, je dirais. On parle du débat juridique, moi je parle de la vie des gens. Le rôle de l'entreprise, c'est quand même de créer un contexte de travail où tout le monde est protégé. Certes, que ce soit juridiquement juste vis-à-vis des employeurs, mais que les salariés, eux, soient aussi dans des conditions où ils puissent repartir sereinement au travail. Parce que les employeurs eux-mêmes le disent, s'il n'y a pas les conditions de reprise psychologique du travail, ça va être très difficile. Et pour ça, il y a deux conditions, respecter les règles sanitaires que nous avons mis en place pour le monde du travail, et deuxièmement, avoir un bon dialogue social. Je crois qu'on en discute avec ces organisations syndicales, avec ces salariés, pour dire, voilà, comment on s'organise, tous ces sujets-là, eh bien, ils deviennent sans objet. Alors, on peut regarder ce qui permet de préciser, mais non pas de changer ou d'atténuer
la responsabilité. Mais vous allez probablement vers cette clarification de la législation, on vous a entendu. Muriel Pénicaud, vous encouragez depuis un certain temps un télétravail massif, au moins jusqu'à l'été, mais il faut l'encadrer, bien sûr, en fonction de la situation actuelle. Est-ce qu'elle est lancée, enfin, cette négociation entre partenaires sociaux sur ce sujet si urgent?
Alors c'est de leur ressort, ils l'ont pas lancé pour l'instant. Ce que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui il y a 5 millions de Français qui travaillent en télétravail. Pour beaucoup, c'est une découverte, et en plus dans des conditions très particulières. Donc il y a des entreprises qui avaient déjà des accords négociés ou des chartes sur le télétravail, et où là ça se passe plutôt bien parce que c'est plus de salariés qui sont concernés et tous les jours de la semaine au lieu d'un ou deux jours. Mais on savait déjà comment faire. Et puis il y a des entreprises et des salariés pour lesquels c'est entièrement nouveau. Et c'est vrai que le télétravail est fait quelquefois dans des conditions aujourd'hui qui sont pas tout à fait le télétravail classique. Quand vous avez les enfants en même temps qui courent partout, on est d'accord, c'est du télétravail dégradé qui ne peut pas durer indéfiniment. Mais il va pas non plus durer indéfiniment. En revanche, il y a beaucoup de gens qui ont découvert le télétravail et qui voient un certain intérêt en se disant, ben voilà, moi j'ai peut-être pas envie de passer deux heures dans les transports par jour, je me concentre mieux, donc un équilibre entre les deux, le présentiel et le télétravail, pourquoi pas. Et depuis les ordonnances de 2017, c'est un droit. Mais ce n'est pas un droit à n'importe quelle condition. Par exemple, très important, il faut pouvoir se déconnecter. On est télétravail, ça ne veut pas dire disponible.
Il y a un droit à la
14
déconnexion.
24, 7 jours par 7. Et donc, on va faire un guide. D'ici la fin de la semaine, nous éditerons parmi tous nos guides un guide spécial du télétravail à destination notamment des entreprises
au-delà du guide,
qui n'ont jamais pratiqué avant et qui ne savent pas trop comment l'organiser.
Bien sûr, est-ce qu'il faut un nouvel accord national surtout?
Ben, une fois que le guide va rappeler tout ce qui existe déjà dans la loi et la réglementation, qui est déjà très important. Donc il y a beaucoup de choses qui existent déjà. Et après, c'est la liberté des partenaires sociaux de savoir s'ils veulent aller plus loin et faire une négociation. La difficulté de la négociation, c'est le délai. Parce que c'est, les négociations en général mettent 4 à 6 mois, donc c'est une problématique. Mais s'ils veulent négocier, bien sûr, ils pourront améliorer. On va déjà rappeler tout ce qui existe. Je pense que ça va sécuriser et les salariés et les entreprises qui... pour beaucoup, l'ont un peu organisé comme
bien
ça.
Sûr.
Sur l'aile et ils n'avaient pas tous
on
les
on posera la question demain à notre invité qui est Laurent Berger, évidemment, sur le démarrage de cette négociation. On l'a compris que vous souhaitez. Je voudrais conclure sur un secteur particulièrement touché, la culture. Tout à l'heure, le président s'entretiendra avec des acteurs du domaine culturel. Les appels à un renouvellement automatique des droits au chômage des intermittents se multiplient et ils vous le demandent vraiment avec force. Est-ce que vous êtes favorable à cette année blanche?
Ce qui est certain, c'est que le secteur de la culture, comme le sport, l'événementiel, l'hôtellerie-restauration, fait partie des secteurs extrêmement touchés, puisque par définition, pour des raisons sanitaires que tout le monde comprend, eh bien, il a fallu interdire les festivals, les rencontres culturelles, et qu'en plus, la saison d'été et d'automne, c'est la saison où il y a le plus d'activités culturelles. Donc il est clair qu'il y a besoin d'une action forte en destination du secteur
donc
culturel.
Vous êtes favorable.
C'est pour ça que le président de la République... a décidé de voir cette réunion ce matin auquel évidemment Franck Riester, le ministre de la Culture, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et moi-même participerons.
Madame
et donc
Annie,
c'est
si
le président
favorable.
De la République qui annoncera les mesures qui seront retenues.
Et vous êtes favorable personnellement?
J'ai fait des propositions au président de la République et au Premier ministre, mais c'est le président
et ben
de la République
c'est à suivre.
Qui décide.
Merci Muriel Pénicaud d'avoir répondu à mes questions. Place aux auditeurs avec vous Mathieu.
Les questions de nos auditeurs au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte. Nous revenons, Muriel Pénicaud, dans quelques secondes en direct sur Europe 1.
La matinale d'Europe 1. Mathieu Béliard.
En direct avec Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Merci de rester avec nous et avec nos auditeurs. Muriel Pénicaud qui se pose beaucoup de questions en ce moment, vous le savez. Ne perdons pas de temps, il y a beaucoup de questions justement. Françoise est avec nous en direct de Savoie. Bonjour Françoise.
Oui, bonjour.
Soyez la bienvenue sur Europe 1. Votre question pour
Merci.
Muriel Pénicaud.
Oui, bonjour Madame la Ministre. Je suis responsable d'une agence de voyage, donc du secteur des agences de voyage, d'un grand groupe national. Des milliers de nos collègues sont en chômage partiel depuis le 16 mars, et aujourd'hui nous sommes entre 80 et 95% de chômage partiel. Sachant le cataclysme qui s'est abattu malheureusement sur notre profession également, nous avons peu de chances de redémarrer notre activité avant la fin de l'année. Suite à vos annonces pour le chômage partiel à partir du 1er juin avec une baisse, qu'en est-il pour le secteur de notre profession, du tourisme, des agences de voyage et du tourisme en général? Comment cela va se passer pour nous, puisque nous ne pourrons pas subir des baisses de chômage partiel, étant donné que nous ne pourrons pas reprendre d'activité avant le mois de septembre, voire même plus tard, puisqu'aujourd'hui, il y a zéro de chiffre d'affaires qui rentre dans nos caisses.
Donc, c'est une question de calendrier, Françoise, aussi, à travers votre question. Mm-hmm. Muriel Pénicaud.
Oui, je comprends tout à fait. Vous avez raison. Les agences de voyage font partie des secteurs qui sont extrêmement touchés par l'arrêt de l'économie et par, évidemment, la difficulté à circuler qui est nécessaire pour continuer à lutter contre la pandémie. Donc les agences de voyage font partie des secteurs où je n'envisage pas de baisser le taux de chômage partiel à partir du 1er juin, parce que effectivement je comprends complètement votre situation. Il faut que vous puissiez garder vos compétences et que vos salariés puissent garder leur emploi. Après, à quel moment on remettra ça en route, mais ça dépend beaucoup des décisions qui pourront être prises à la fin du mois. Et donc c'est à ce moment-là qu'on verra. Mais en tout cas, ça ne sera pas le 1er juin.
Ce ne sera pas le 1er juin, ce sera prolongé, ça c'est garanti pour Françoise.
Oui, tout à fait.
Françoise ?
Merci d'avoir répondu très clairement à cette question. Merci beaucoup.
Voilà, c'est efficace en tout cas. Question concrète hein, pour démarrer. Elles le sont ce matin évidemment. Gaëtan est en ligne avec nous. Patricia d'abord, pardon, qui est en direct depuis Chartres. Bonjour Patricia. Alors, on me dit, petit souci technique avec Patricia, il n'y a aucun problème. J'ai sa question sous les yeux. Muriel Pénicaud, je suis directrice d'un CFA. Quand sera-t-il du déconfinement de l'apprentissage?
Oui, très bonne question. Alors, comme vous le savez, l'apprentissage, c'est... une voie d'excellence, de réussite. On s'est beaucoup mobilisé avec les professionnels, le gouvernement, pour faire décoller l'apprentissage. Et il y a encore 3 mois, on fêtait plus 16% d'apprentis dans l'année. Et je crois que ça sera un signal très important pour les jeunes demain, de dire qu'on peut continuer à trouver sa voie professionnelle, un métier de passion et un emploi à travers l'apprentissage. Et donc, on est en train de travailler avec tout le secteur de l'apprentissage pour une réouverture qui devrait être très rapide, pour les CFA qui sont capables de mettre en place toutes les mesures sanitaires. Donc, je l'annoncerai dans quelques jours, mais les CFA sont en train de se préparer pour une reprise.
Mais à partir de quand est-ce qu'on pourra rouvrir les CFA, les centres de formation des apprentis?
J'annoncerai dans quelques jours et ça viendra assez vite après. Donc les CFA sont en train de se préparer, parce qu'on est en train de vérifier un certain nombre de choses.
Donc en mai.
Évidemment, ça sera en fonction des conditions sanitaires. Donc on nous ferons évidemment un guide là aussi spécial pour quelles sont les conditions pour que les jeunes et les formateurs soient pleinement protégés dans un CFA. Donc il faudra s'organiser comme dans une entreprise pour respecter ces conditions sanitaires de distanciation, de lavage des mains, etc. Mais à ces conditions-là, les centres de formation d'apprentis vont pouvoir rouvrir. Et je pense que c'est une forte demande. À ce propos, je voudrais quand même saluer notre millier de CFA en France qui ont fait un travail formidable depuis 2 mois. Parce que je leur ai demandé, quand on a décrété le confinement, de voir s'ils pouvaient faire de la formation à distance. La plupart n'en avaient jamais fait. Et aujourd'hui, ce sont 9 apprentis sur 10 qui bénéficient de formation à distance, alors que ça n'existait pas il y a 2 mois. Donc un grand coup de chapeau. Je voudrais dire aussi que dans la crise, on voit des énergies, de l'innovation et des gens qui se retroussent les manches, et les centres de formation d'apprentis en font partie.
Ah oui, réouverture courant mai, hein. On a bien compris.
C'est-à-dire bientôt.
On est au mois de mai. Merci Muriel Pénicaud et merci à Patricia pour sa question. Je vous garde avec nous, Madame la Ministre du Travail. D'autres questions arrivent, je vois Gaëtan, notamment au 39-21. Dans quelques toutes petites secondes sur Europe 1, à tout de suite. Avec Muriel Pénicaud, la Ministre du Travail, en direct ce matin pour répondre à vos questions. Bonjour Gaëtan.
Bonjour.
Votre question. Vous êtes au chômage, vous êtes demandeur d'emploi Gaëtan?
Tout à fait. Je suis contraint de demander d'emploi suite au Covid. J'étais en création de société début mars et ma structure, bon, les banquiers n'ont plus suivi. Donc je me retrouve à être demandeur d'emploi et devoir être en fin de droit début juin. Et ma question pour Madame la Ministre en fait est toute simple. Le 15 avril, sur un ASC PPG, Madame la Ministre avait annoncé un gel de la période de confinement pour tous les demandeurs d'emploi. Donc c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte les 2 mois de confinement et tous les droits étaient reportés de 2 mois. Or, les ordonnances prévoient juste une prolongation des droits pour les demandeurs d'emploi arrivant en fin de droit au mois de mars, avril et mai, donc jusqu'au 31 mai. Mais par contre, c'est pas un gel, c'est pas un report et c'est pas une neutralisation de la période. C'est juste une prolongation pour les fins de droit de mars, avril, mai. Qu'en est-il pour ceux du mois de juin, comme moi, qui ont se trouvé sur un marché du travail où il n'y a plus d'emploi, où il y a 13 millions de chômage partiel à réintégrer dans les entreprises et où le marché de recrutement ne va pas redémarrer avant le mois de septembre?
Muriel Pénicaud.
Oui, d'abord, bonjour monsieur, vous avez raison, ceux qui sont arrivés dans cette période au chômage se sont retrouvés dans une situation difficile. Il y a eu d'ailleurs 2 cas, ceux qui arrivaient en fin de droit, comme vous l'avez dit, donc on a prolongé les droits de mars à avril, d'avril à mai, et si nécessaire, eh bien, on va le faire en juin. Mais il y avait aussi ceux qui avaient démissionné d'une entreprise, en ayant une promesse d'embauche et qui se retrouvaient sans rien et qui on a ouvert le droit à l'assurance chômage alors que d'habitude ils ne l'ont pas. Mais bien sûr ça ne pourra pas durer indéfiniment, mais il y a un rapport entre ça, entre la prolongation des droits et le fait qu'il y a une reprise d'activité économique. Il y a une petite reprise là qu'on sent, je pense qu'elle va beaucoup s'accélérer en mai, j'espère bien. On a aujourd'hui quand même déjà des métiers en tension. Alors, c'est pas forcément dans votre secteur. Et d'ailleurs, je crois que dans les temps qui viennent, on va avoir quand même des secteurs qui repartent beaucoup plus vite que d'autres et qu'on sera quand même amené à se dire, ben, on va peut-être, pendant un certain temps, travailler dans un autre métier parce qu'on va avoir des métiers en tension et des secteurs qui ont du mal à repartir. Je crois que c'est réaliste de se dire ça.
Quel secteur mais mon but, c'est de laisser les autres, Muriel Pénicaud, hein. Quel secteur va repartir plus vite que les autres, sont en train de repartir, de ce que vous ressentez?
Bah, je pense que le bâtiment, je pense où il y a des carnets de commandes très importants, il y a le commerce, il y a une partie du commerce qui va partir bien. Aujourd'hui, les métiers d'aide à la personne, les transports, la logistique sont en pénurie de recrutement. Et puis l'industrie, là, on a beaucoup de signaux. L'industrie s'était ralentie à 50% de son activité. Et dans beaucoup de secteurs industriels, ça va repartir. Donc je crois qu'il y a quand même des secteurs dont on va voir fleurir les demandes de recrutement. Ça ne va pas être général, mais il va falloir effectivement un peu d'agilité dans les temps qui viennent. Il va falloir aller là où il y a de l'emploi dans un premier temps. Et puis tout ça va s'organiser progressivement.
Allez-y Gaëtan.
Je ne peux pas vous couper. En fait, moi, mon problème, c'est que le 15 avril, vous avez annoncé sur le Ask PPG que vous avez fait qu'il y aurait une autorisation de la période de confinement pour tous les demandeurs d'emploi. Vous l'avez annoncé. Moi, je veux savoir pourquoi ce n'est pas mis en place. Pourquoi normalement, une neutralisation, c'est-à-dire que le 15 mars, on neutralise les droits, on bloque les droits et on retrouve nos droits le 11 mai. Donc c'est-à-dire qu'il y a 55 jours qu'on doit récupérer un droit au chômage, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde.
On neutralise les droits.
Le 31 mai, vous ne neutralisez pas les droits. Si je neutralise les droits, c'est-à-dire que je retrouve mes droits au chômage du mois de mars, je les retrouve le 11 mai, ce qui n'est pas le cas.
Je comprends ce que vous voulez dire. Quand j'ai dit neutraliser les droits, c'est les droits pour pouvoir entrer au chômage. Puisqu'il faut une certaine période pour avoir travaillé. Et dans le calcul des droits, on tient compte de la période où on a travaillé. Et on a considéré que la période de confinement, c'est une période où majoritairement les Français ne pouvaient pas travailler, même s'il y a certains travaillaient, mais on a considéré ça majoritairement. Donc le calcul des droits de ceux qui vont arriver au chômage ou pour lesquels on était ou qui auront besoin d'une période de travail pour accéder au chômage, là, ça sera neutralisé.
Merci.
Et pour ceux qui sont en cours, on prolonge les droits de mois en mois, le temps que la reprise se fasse.
Merci Gaëtan pour votre question. Je vais prendre dans ma voix la question de Paul qui est dans le 12e arrondissement de Paris. Je suis intermittent, et c'est parce qu'elle est d'actualité. Je voulais savoir si Pôle emploi prévoyait des aides, des accompagnements pour 2020.
Alors, pour les intermittents, déjà, on a là aussi prolongé et neutralisé la période de confinement. Vous savez que quand vous êtes intermittent, vous avez besoin d'avoir travaillé 507 heures dans l'année pour avoir droit à l'assurance chômage l'année d'après. Donc la période de confinement neutralisée ne compte pas dans les 507 heures. Les droits ont été prolongés dans le même esprit. Après, effectivement, ça fait partie des discussions qu'on a avec le secteur professionnel et dont le président de la République parlera tout à l'heure.
Parce que c'est en ce moment qu'il cumule des heures, normalement, les intermittents sur le printemps et l'été.
L'accompagnement de Pôle emploi, on avait démarré en janvier, et on va reprendre ça avec beaucoup de force et de vigueur, un accompagnement personnalisé auquel je crois beaucoup, qui a été testé, qui a beaucoup de résultats, au lieu d'avoir trois quarts d'heure de rendez-vous dans les deux premiers mois, les demandeurs d'emploi auront réellement deux jours de véritable coaching, bilan de compétences, le projet, dans les deux premiers mois, et ça a beaucoup d'effet. Donc il y a le renforcement de l'action personnalisée de soutien de Pôle emploi, auprès des demandeurs d'emploi et des entreprises, eh bien, il reprend. Pôle emploi rouvre ses agences à partir du 18 mai. Je crois que cet accompagnement personnalisé renforcé, eh bien, ça va être la priorité de Pôle emploi, évidemment, dans les semaines qui viennent.
Une question sur le volontariat, pardonnez-moi Muriel Pénicaud, mais si aujourd'hui je suis parent, que je choisis de ne pas envoyer mon enfant à l'école alors qu'elle peut l'accueillir, est-ce que j'ai quand même le droit au chômage partiel ?
Alors, les écoles vont rouvrir progressivement, et donc pour... que les parents soient sereins. Ce que nous avons déjà annoncé, c'est que au mois de mai, si un parent déclare qu'il ne peut pas reprendre son travail parce que l'école n'est pas ouverte ou pas ouverte tous les jours ou parce qu'il ne souhaite pas mettre son enfant à l'école, à ce moment-là, il pourra continuer à bénéficier du chômage partiel. Après, on fera le point à la fin du mois. Pour le mois de mai, c'est-à-dire le temps de la reprise, du redémarrage de toutes les écoles. Et on fera le point à la fin du mois de mai avec le Premier ministre et on verra à ce moment-là comment on fait pour le mois de juin. Mais déjà, pour la rentrée, pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude supplémentaire à avoir. On se concentre sur permettre aux enfants d'avoir la chance de repartir à l'école dans des bonnes conditions. C'est ça qui est le plus important. Et pas de stress pour les parents. Ils ont le choix de repartir au travail ou pas pendant cette période-là où on va un petit peu jongler sur l'organisation familiale. On en est conscient.
On a bien compris, pour le coup, que ce serait du cas par cas et qu'il faudrait s'adapter. Muriel Pénicaud, merci beaucoup d'avoir répondu avec précision aux questions de nos auditeurs. On a bien compris que pour les intermittents, on allait attendre aujourd'hui et que pour d'autres questions, les CFA, on attendra dans quelques jours pour une réouverture au mois de mai, si j'ai bien compris, Muriel Pénicaud. Merci beaucoup.
Bonne journée à tous.
Je vous taquine. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, en direct ce matin sur Europe 1. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos auditeurs. Dans quelques secondes, la revue de presse de Nicolas Canteloup. A tout de suite. 8h46, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, Mathieu Béliard pour un petit coup d'œil sur l'actualité.
Et oui, bonjour Julie, bonjour, enfin rebonjour, pardonnez-moi, on était ensemble depuis un petit bout de temps. Bonjour à tous, c'est Mathieu Béliard, regarde le monde changer, regarde la culture couler, malgré le très bel hommage de Laurent Cabrol à 7h30 qui a fait sa météo en musique, en passant cette magnifique chanson, le soleil donne.
Le soleil donne.
N'est-ce pas, le Charles? Bon, merci de la repasser en régie. J'adore Alain Bouchon et Laurent Brouilly. C'est vraiment Alain Bouchon, c'est mon chanteur préféré. Et c'est vrai que pas. Hein, attendez, on parle dans le casque. Oui. Ah, c'est Souchon, pas Bouchon. Et c'est Bouzy, pas Brouilly. Oui, bon, pardon. Oui, écoutez. Après, il est 7h30. Voilà. C'était 7h30. Il va falloir faire chaud. Hein. Je pense qu'il va falloir penser à s'hydrater. Voilà.
Merci. Voilà pour la météo.
Merci, mon cher Lolo. Allez, on part sur l'info du jour. C'est l'explosion. Ouais. L'explosion des ventes de vélos. Et oui, le Covid a réussi en 2 mois ce qu'Anne Hidalgo a échoué en plusieurs années. Finalement, on va sauver la planète grâce à l'épidémie. Vive le Covid. Le corona plus fort que Greta. C'est la vraie leçon. À vous, Julie.
Merci, Mathieu. Emmanuel Macron visitait une école hier à Poissy. Le président a discuté avec des élèves de CP et nos équipes étaient sur place.
Bonjour les enfants. Bonjour à toutes et à tous. Et un petit peu de concentration. Et merci à vos parents, les caissières et les caissiers, les infirmières, les infirmiers. Les éboueurs et les éboueuses.
Oui, bon.
Comment ça va ce matin, les enfants? Est-ce qu'on vous a expliqué, s'il vous plaît, les enfants, un peu de calme. Est-ce qu'on vous a expliqué ce qui se passait en ce moment dans notre beau pays?
Oui, monsieur, moi je sais. C'est qu'un coronavirus.
C'est bien. Bravo. Donc, est-ce que vous comprenez pourquoi l'école n'est pas comme d'habitude?
Oui, l'école n'est pas comme d'habitude parce que le système capitaliste mondialisé a permis une extension rapide du virus. Il faut revenir aux valeurs du marxisme.
Du marxisme,
oui. Oui, attends, excuse-moi mon garçon, c'est ton papa et ta maman qui t'ont dit ça?
Non, mon papa et ma maman, ils ont dit Macron démission.
Oui, bon, écoutez, gentil, oui. Merci, Matteo Staline. Alors, bon, on va laisser parler, s'il vous plaît, les enfants, on va laisser parler les autres. Hein, tiens, toi, tu as l'air mignon, toi. Toi, tu fais de la couture avec tes parents pour te fabriquer un masque, c'est ça?
Nous, on fait la couture pour fabriquer des Yuli gilets jaunes.
Monsieur le préfet, approchez, monsieur le préfet. Vous auriez pu trouver une classe à Versailles, hein, pour qu'on est venu dans un quartier comme ça. Hein. La prochaine fois, c'est le 16e ou rien. Ok? Merci.
Bon, écoutez, c'est clair. Monsieur le président, on va vous retrouver en direct maintenant, puisqu'aujourd'hui, vous allez vous adresser à tout le secteur de la culture qui se sentait oublié. C'est bien ça, Emmanuel Macron?
Oui, je ne savais pas que j'avais été enregistré, madame Julie.
Ah, bah, c'est cela. Je me fie, hein, quand il y a des caméras.
Mais avant tout, laissez-moi, chère Julie Leclerc, cher Mathieu Béliard, dire merci. Merci aux intermittentes et aux intermittents qui intermittent. Aux caméramans qui cament et qui ramanent. Aux troubadours qui troubadourinent, aux saltimbanques qui n'ont plus rien en banque. Les applaudissements, oui, je le sais, vous manquent. Je l'entends, amis artistes. Eh bien, allez à vos fenêtres. Écoutez ce bruit monter. Oui, vous serez applaudis tous les soirs à 21h. Oh. Et il y aura un rappel avec de nouveaux applaudissements à 22h. Parce que oui, nous avons gouvernement, penser à tout.
Bah merci pour eux. Ils vont être ravis, les intermittents. Merci beaucoup. Exceptionnellement, cette année, vous savez qu'il n'a pas déposé sa célèbre gerbe de fleurs devant la statue de Jeanne d'Arc. Confinement oblige. C'est Jean-Marie Le Pen. Bonjour, monsieur Le Pen.
Oui, bonjour, madame Leclerc. Je vais dire de Cabrol. Écoutez, à 91 ans, effectivement, sortir dehors, c'est irresponsable. N'est-ce pas? C'est un petit peu comme. C'est trop de risques, un petit peu comme si M. Gilbert Montagnier, n'est-ce pas, conduisait seul un hélicoptère, n'est-ce pas? Un peu voilà, de chance ouais, qu'il rentre vivant chez lui, si je peux me permettre ce petit trait d'humour, n'est-ce pas?
L'humour, oui, vraiment. Oui. Alors, le coronavirus a eu raison de votre hommage à Jeanne d'Arc, hein?
Oui, alors que Jeanne, et signalons-le tout de même à vos auditeurs fidèles, Jeanne n'aurait jamais pu mourir du Covid-19, n'est-ce pas?
Ah bon, pourquoi?
Et parce qu'on sait aujourd'hui, enfin d'après les écrits et les dires des médecins, que le virus meurt au-dessus de 60 degrés, n'est-ce pas?
Oh, hey, vraiment, oui.
Deuxième trait d'humour, n'est-ce pas?
Oh, oui, dis-moi. Alors par contre, il y en a une qui est allée, c'est votre fille Marine.
Santé. Santé, mais je lui dis, mets un masque, oui, pour cacher, parce que tu es vilaine, n'est-ce pas? Pardonnez-moi, mais Marine habite, que je sache, à moins d'un kilomètre du Louvre, c'est une nouveauté, je ne savais pas, ou alors elle y est allée peut-être déposer sur la stèle de Jeanne d'Arc, elle y est allée pour raison médicale, peut-être,
n'est-ce pas? Attendez, non, vous pensez qu'elle a enfreint le confinement et mérité 135 euros d'amende?
Non, laissez tomber, elle ne paiera pas. Oui, écoutez, j'ai vécu une expérience personnelle difficile. Cette saleté me doit 4 millions. Je n'ai toujours rien vu venir.
Ah, bah dites donc, mon pauvre monsieur Le Pen. Bon courage. Hein, Appel aux dons, faux vaccins. Les nouvelles arnaques du Covid-19 sont en train de se multiplier, là.
Oui, ah ben, vous êtes marrante, vous. Il faut bien s'adapter.
Ah, Jean-Claude Gaudin, bonjour.
Oui, bonjour, madame Jullery. Bonjour, monsieur Belliard, madame Cabrol. Monsieur Cabrol, pardon. Oh. Ouais, j'ai la tête. Bon, je disais qu'il faut bien s'adapter. On ne peut plus, sur Marseille, cambrioler. Les gens sont chez eux en permanence. On ne peut plus pickpocketer. Les gens ne marchent plus dans la rue, il n'y a personne, pas un chat. Alors il faut bien trouver de nouvelles arnaques, donc sur Internet, par exemple. Les escrocs font aussi, quelque part, s'y mettent et font du télétravail,
c'est
voilà.
C'est ça, c'est ça. Bon, alors quel est le cas le plus fou que vous ayez vu à Marseille?
Ah, dans le genre escroc au coronavirus.
Oui, oui.
Ah, mais chez nous, je dois dire que c'est assez gratiné. Hein. J'ai lu ce matin qu'il y a un type qui s'est déguisé en Patrick Sébastien et qui a fait croire à Donald Trump qu'il avait un médicament miracle.
Non, mais attendez.
Ah merde, oui, pardon, c'est Didier Raoult. Non, vous allez voir qu'on va encore passer pour des charlots à Marseille à cause de lui.
Allez, à bientôt Jean-Claude Gaudin. Mick Jagger est confiné dans un petit village de l'Indre-et-Loire, à Possé-sur-Cisse, c'est un village de 1600 habitants. On va en parler avec Philippe Manœuvre. C'est étrange, non, Philippe?
Oh putain! Je viens, Julie, de me prendre un coup de vieux avec ton info. Non mais, tu te rends compte? Mick, mon Mick Jagger à moi! Le gars a tout traversé. Il a traversé l'herbe, la coke, le crack, l'héro. Et c'est le coronavirus qui aura eu raison, lui! Mick Jagger, non mais Mick Jagger, les amis! Non mais tu t'imagines, Mathieu, Laurent, Mick Jagger, mon idole, l'incarnation du rock qui vit comme ma mamie Yvonne de 96 ans et qui va faire ses courses au marché avec son caddie à roulettes pour acheter des courgettes. Non mais, je te le dis tout de go, le Covid a eu la peau du rock'n'roll, July. Rock'n'roll is dead.
Oh, peut-être pas quand même.
Ah bah écoute, c'est vrai que les overdoses à la courgette, c'est plus rare quand même.
Ah oui, ça c'est sûr, oui. Oh, yeah. Allez, on va finir en prenant des nouvelles de Laetitia Hallyday. Bonjour Laetitia, comment ça va?
Oui, oh, écoute, ça va pas très fort.
Oh.
C'est à cause de Mamour 2.
Ah oui, alors Mamour 1, c'était Johnny.
Oui.
Et Mamour 2, c'est votre nouveau chéri, hein,
oui.
Qui est propriétaire d'un restaurant, lui.
Oui, oh, je ne sais même plus. Enfin, avant, il vendait des salades. Maintenant, il vend carrément le resto. Non, on est ruinés. Enfin, on est ruinés. Enfin, et surtout lui, quoi.
Oui, oui, c'est très dur pour tous les restaurateurs. On le sait, hein, on pense à eux, d'ailleurs. Mais en amour, franchement, on s'en fiche de ce que possède l'autre.
Oui, on s'en fiche de ce que possède l'autre. Oui, mais enfin... Ah oui. Enfin, oui, enfin, bon, enfin, t'es marrant, quand il avait rien, ça allait, mais là, il a moins 100 000, moins 200 000, maintenant moins 300 000 euros. Ça fait beaucoup de sous en moins, quand même.
Oui, mais vous pouvez peut-être l'aider, Laetitia, allons.
Comment ça, tu veux dire...
Bah, vous pouvez l'aider, quand même, vous avez quoi?
Tu veux dire prendre les sous de Mamour 1 pour aider Mamour 2?
Ah oui.
Oh non, non, jamais je ferai ça. Je n'y voudrais pas. Tu te rends compte, si Johnny, il sait que j'ai pris des sous de Que je t'aime pour aller acheter des courgettes à Rungis, il va pas être content.
Oh putain, encore des courgettes comme Mick Jagger. Ah bah, mais c'est quoi? C'est une épidémie de courgettes.
Ah bah. Non, 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 tu sais quoi, je crois que je vais accomplir un geste barrière. Ah bon, je vais quitter Mamour 2. Tu sais, Julie, dans certains cas, la seule solution, c'est... c'est la distanciation sociale.
Bravo. Bravo à Nicolas Canteloup. Évidemment, merci Nicolas, merci Julie. Nicolas, vous êtes encore là?
Oui,
vous êtes
sûr.
Ça fait toujours bizarre d'entendre votre vraie voix.
Ben, moi, je me surprends.
Une petite question, puisque j'ai quelques secondes là. Julie, Nicolas, vous arrivez à faire du sport en confinement?
Oui, bien sûr. Bien sûr, je fais du sport avec Julie tous les matins. Ah, il est muscle, les cordes vocales.
Vous faites quoi concrètement là? En
activité? Je fais du footing, mais du footing amélioré, c'est au galop à cheval. Voilà.
C'est bon,
on fatigue moins.
On fatigue moins.
Vous devriez essayer, Mathieu.
Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si si vous m'invitez, je... très volontiers.
Plaisir.
Laurent Cabrol, il fait du sport, Laurent? Il est là, Laurent, ou pas?
Ouais, bien sûr,
oui.
Je suis là.
Vous arrivez à avoir un peu d'activité physique en ce moment?
Ah, mais moi, je suis du tracteur, moi.
Bon, je suis pas aidé. Hein. Julie, peut-être?
Non, moi, je fais le ménage, la lessive, le repassage, les courses, bon, la cuisine.
Vous savez quoi? Je vais tous vous libérer. Et on va retrouver Cyril de la Morinerie et Coach Perrin entre 9h et 9h30. Ils seront peut-être un peu mieux placés pour nous parler de sport. On va parler du déconfinement et du sport amateur, si je puis me permettre. Parce qu'on parle tout le temps des pros et des droits télé, etc. Là, il y a cette problématique. À partir du 11 mai, est-ce que oui ou non, vous avez prévu de reprendre une activité sportive? Vous êtes dans un club vous-même, un club de foot, de tennis, je ne sais pas, vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. 3921 et le hashtag Radio Ouverte. Dans quelques secondes, le journal d'Hélène Zélani à 9h. Bon réveil. Il est 9h sur Europe 1, un nouveau journal avec Hélène Zélani.
Nous éditerons parmi tous nos guides un guide spécial du télétravail à destination notamment des entreprises qui n'ont jamais pratiqué avant et qui ne savent pas trop comment l'organiser.
Mais la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, annonce ce matin ce guide pour les 5 millions de salariés concernés par le télétravail. Ils doivent pouvoir se déconnecter. Le monde de la culture espère sortir du marasme, annonce d'Emmanuel Macron attendue dans la journée. Recherche masque désespérément, mais si vous les achetez sur Internet, attention aux arnaques.
On a un exemple de site qui avait été créé début mai et pour lequel il y avait des commentaires qui remontaient à mi-avril.
Et puis pourrons-nous aller à la plage cet été? Rien n'est sûr. À Argelès-sur-Mer, près de Perpignan, on imagine déjà un système de billetterie.
Le but, ça n'est pas de faire une sélection par l'argent à l'accès à la plage, c'est d'accéder à un transat en toute sécurité.
Et juste après ce journal, Mathieu?
Le sport, après le sport à la maison, le sport déconfiné à partir du 11 mai. Qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit? Et surtout, ce que vous avez prévu ou envie de faire en termes d'activité sportive, associative. 3921, le hashtag Radio Ouverte, c'est juste après ce journal sur Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
À 5 jours du début du déconfinement, 12 100 000 salariés sont en chômage partiel. Près d'un million d'entreprises concernées. Ces chiffres sont révélés ce matin sur Europe 1 par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. On sait que 5 millions de salariés sont actuellement en télétravail. Beaucoup vont continuer dans les semaines qui viennent. Selon un sondage CSA, 30% estiment que leur santé psychologique et leur santé physique se sont dégradées pendant le confinement. Ils ont le droit de se déconnecter, leur dit Muriel Pénicaud.
Il y a des entreprises qui avaient déjà des accords négociés ou des chartes sur le télétravail. Et puis il y a des entreprises et des salariés pour lesquels c'est entièrement nouveau. Et c'est vrai que le télétravail est fait quelquefois dans des conditions aujourd'hui qui ne sont pas tout à fait le télétravail classique. Quand vous avez les enfants en même temps qui courent partout, on est d'accord, c'est du télétravail dégradé qui ne peut pas durer indéfiniment. Il ne va pas non plus durer indéfiniment. En revanche, il y a beaucoup de gens qui ont découvert le télétravail et qui voient un certain intérêt en se disant, moi je n'ai peut-être pas envie de passer 2 heures dans les transports par jour, je me concentre mieux, donc un équilibre entre les deux, le présentiel et le télétravail. travail, pourquoi pas. D'ici la fin de la semaine, nous éditerons parmi tous nos guides un guide spécial du télétravail à destination notamment des entreprises qui n'ont jamais pratiqué avant et qui ne savent pas trop comment l'organiser.
Muriel Pénicaud, ministre du Travail au micro Europe 1 de Sonia Mabrouk. Dernière illustration de la crise qui frappe notamment le tourisme. Airbnb, la plateforme de réservation de logements, va licencier un quart de ses employés dans le monde, soit 1900 personnes.
Le monde de la culture asphyxié, lui aussi, est suspendu aux annonces d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Ça concerne 1 300 000 personnes.
Ce matin, le chef de l'État va s'entretenir pendant 2 heures en visioconférence avec une dizaine d'artistes. Il annoncera ensuite les premières orientations de son plan d'aide. Le secteur voudrait au moins pouvoir se projeter, Angèle Châtelier.
Le secteur de la culture demande surtout un calendrier précis de déconfinement pour cesser de naviguer à vue. Car pour l'heure, on sait seulement que les festivals sont interdits jusqu'à mi-juillet, les rassemblements de plus de 5000 personnes jusqu'à fin août, ce qui permet au festival d'humour et de théâtre de Ramatuelle de se tenir. Jacqueline Franjou, sa présidente, est même prête à s'adapter.
Nous sommes en plein air. Je peux faire un rang sur 3 et une place sur 3. Alors, c'est pas une solution très agréable pour ceux qui sont sur scène, mais je me dis que on devrait pouvoir faire quelque chose, vous voyez, de joli et qui donne de l'espoir d'avoir pu au moins faire un spectacle.
Ce qui donnerait aussi du travail aux intermittents qui réclament une année blanche, c'est-à-dire percevoir leurs allocations jusqu'à 2021.
Angèle Châtelier, la carte du déconfinement deviendra définitive demain soir. Hier, les 5 départements des Hauts-de-France sont passés en orange. 27 départements restent en rouge, notamment dans l'Est et en région parisienne.
Et pour réussir le déconfinement, il faudra impérativement des masques. Les grandes surfaces sont prises d'assaut depuis le début de la semaine et les stocks fondent comme neige au soleil.
Attention, si ces masques, vous les commandez sur Internet, il peut y avoir arnaque. Mais la répression des fraudes veille, Salomé Legrand.
Ils sont une trentaine de cyber-enquêteurs à surfer sur Internet comme si ils étaient des consommateurs lambda en quête de masques, mais ils sont attentifs à tous les petits détails, explique Loïc Tanguy, directeur de cabinet à la Direction générale de la répression des fraudes.
On a un exemple de site qui avait été créé début mai et pour lequel il y avait des commentaires qui remontaient à mi-avril, avec évidemment des commentaires dithyrambiques à chaque fois sur la qualité des produits qui avaient été livrés. On peut avoir des sites qui vous annoncent qu'il y a 8 personnes sur la page et qu'il reste 8 produits en stock. Ça, c'est généralement une pratique trompeuse. Vous pouvez avoir également des annonces de réduction de prix qui sont farfelues. C'est tout un faisceau d'indices qui peut amener les enquêteurs à enquêter plus loin. Le cas échéant, ils peuvent acheter des produits. Et ensuite, s'il y a tromperie, effectivement, on transmet l'information à la justice.
Si vous avez un doute, la liste des vendeurs qui ont passé les tests de filtration est disponible publiquement sur le site de la Direction générale des entreprises.
L'Allemagne s'apprête à lancer la deuxième phase du déconfinement. Tous les magasins et toutes les écoles devraient rouvrir d'ici la fin du mois. C'est un projet d'accord entre le gouvernement et les régions qui vient d'être dévoilé. Le feu vert doit également être donné pour la reprise du championnat de foot, mais à huis clos.
La reprise dans le sport amateur, on va en parler juste après le journal avec Cyril Delamorinerie et Jean-Claude Perrin.
Le Sénat accepte de prolonger l'état d'urgence sanitaire, mais sous conditions. Le projet de loi a été adopté la nuit dernière. Le texte arrive maintenant à l'Assemblée pour une adoption définitive avant la fin de la semaine.
Le Sénat qui a longuement débattu hier de la possibilité de rouvrir l'accès aux plages du Nord à la Méditerranée. Emmanuel Macron a lui prévenu qu'il faudrait attendre début juin pour savoir si on pouvait partir en vacances.
Une fermeture totale des plages en pleine haute saison, perspective inquiétante pour le moins pour les communes du littoral comme Argelès dans les Pyrénées-Orientales. Là-bas, on réfléchit à un système d'accès sur réservation. Écoutez le reportage de Benjamin Péter.
280 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires annuel du tourisme pour la seule commune d'Argelès-sur-Mer. Alors le maire Antoine Parra n'imagine pas une seconde laisser cette économie à l'abandon. Si le gouvernement devait laisser les plages fermées cet été, il réfléchit à une billetterie gratuite que les vacanciers réservent un créneau sur Internet.
Vous inscrivez pour aller à telle plage de telle heure à telle heure, mais ça permettrait quand même de donner un accès à la plage. Argelès-sur-Mer, sans ces plages, c'est plus du tout Argelès-sur-Mer. Ça pourrait quand même donner un moyen terme intéressant face à une fermeture totale.
Quelques kilomètres plus loin, le maire de Saint-Cyprien, Thierry Del Pozo, compte davantage sur les plages privées qu'il propose d'étendre, quitte à demander qu'elles baissent leurs tarifs de transat à la journée.
Le but, ça n'est pas de faire une sélection par l'argent à l'accès à la plage, c'est d'offrir cette possibilité d'accéder à un transat. C'est l'assurance d'avoir quelque chose qui soit désinfecté tous les jours et donc d'avoir la distance et un lieu pour se poser sur la plage en toute sécurité. Moi, je ne me vois pas sur 6 km de plage réglementer l'accès à la plage. C'est matériellement impossible.
Il lui réclame des aides de l'État pour pouvoir embaucher du personnel qui pourrait contrôler l'accès aux plages gratuites, sans quoi il ne voit pas comment il pourrait faire appliquer des règles de distanciation.
Reportage de Benjamin Péter. Et puis il va falloir faire des efforts avant la plage. Depuis le début du confinement, nous avons pris en moyenne 2,5 kg chacun. Étude de l'IFOP que dévoile le Parisien ce matin. Moins d'activité physique, plus de cuisine et surtout beaucoup plus d'apéro. Sachez Mathieu qu'il y a des rondeurs en plus du côté des femmes de la région parisienne et des hommes dans les communes rurales.
Bon, je vais prendre pour les hommes des communes rurales, mais vous êtes une femme de la région parisienne,
oui,
Hélène. Hein.
Oui.
Ce serait très indélicat de vous demander. Moi, il n'y a plus de piles dans ma balance.
Mais
et j'ai pas prévu d'en remettre, ça fait 2 ans. Cela dit, blague à part, vous arrivez à avoir une activité physique un peu, Hélène, vous ?
Pas du tout.
Non, c'est dur. Hein.
C'est
non, mais parce qu'on parle, on a beaucoup parlé du sport à la maison, mais la réalité, c'est que c'est compliqué quand même. Sans le plein air, eh bien, le 11 mai, il y a des choses qui vont changer. Ça, c'est positif pour les sportifs du dimanche, les sportifs amateurs. C'est positif, mais il y aura des règles. Évidemment, et on va en parler. Quelles sont vos envies ? Tiens, je m'adresse aux auditeurs tout simplement. Quels sont vos manques ? Tout simplement, est-ce qu'une partie de foot avec des copains, un tennis, je sais pas, un golf? 39-21, le hashtag radio ouverte. N'hésitez surtout pas à prendre la parole. Nous serons avec Cyril de la Morinerie et Jean-Claude Perrin. Il va y avoir des kilos à perdre, ça c'est sûr. Et on va s'y remettre tous ensemble. Merci Hélène Zellani. Il est 9h09.
Mathieu Béliard.
Le rendez-vous à la ferme de Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu.
Alors Fanny, vous vouliez ce matin nous parler d'une crise invisible, mais pourtant plus grave que celle que pourrait occasionner une pénurie de pétrole, la pénurie de phosphore qui semble inévitable.
Oui, une pénurie prévisible, beaucoup moins médiatisée que celle du pétrole. Et pourtant, pour bien comprendre là où je veux en venir, il faut d'abord avoir en tête qu'en agriculture, cultiver en continu sur une même parcelle appauvrit le sol en éléments nutritifs pour les plantes, avec une baisse du rendement au fil du temps. Alors pour compenser cette perte, les humains ont inventé l'engrais. C'est même sur cette base que l'agriculture moderne et intensive a pu prospérer, avec notamment l'apport de phosphore, qui est l'ingrédient de base en engrais de synthèse, indispensable à la croissance des végétaux qui nous nourrissent. Le phosphore qui a permis notamment la production de blé de tripler en un siècle.
Oui, mais le problème, c'est que les gisements de phosphore sont inégalement répartis sur la planète.
Affirmatif, seule une poignée de pays, situés principalement en Afrique du Nord, se partagent la moitié de la ressource mondiale. Des stocks qui sont loin d'être gérés durablement et qui s'amenuisent d'année en année, laissant planer une catastrophe mondiale avec un pic de production prévu pour 2030. J'entends par catastrophe, Mathieu, une pénurie de ce minerai qui conduirait à une impossibilité de continuer à produire notre nourriture.
La réponse à cette potentielle crise du phosphore pourrait se trouver en nous.
La bonne nouvelle, Mathieu, c'est que notre organisme est capable de concentrer le phosphore que nous ingérons. Un être humain, par exemple, évacue en moyenne 1,7 g de phosphore par jour par les urines. Du phosphore qu'il serait possible de récupérer, traiter et réutiliser. Mais pour l'instant, 100% de ce phosphore ne retourne pas dans la boucle du vivant et termine aux toilettes. De nombreux procédés sont à l'étude en ce moment pour tenter d'extraire le phosphore et de le renvoyer aux champs de culture. Une solution viable pour protéger les stocks qui semble logique si nous considérons que l'humanité doit elle aussi rejoindre les grands cycles naturels où rien ne se perd et tout participe au renouvellement de la matière. Et là, en l'occurrence, de notre nourriture.
Merci beaucoup Fanny Agostini. On phosphore avec vous, si j'ose dire. On apprend des choses, en tout cas au contact de la nature. C'est le rendez-vous à la ferme d'Europe 1 et c'est tous les matins. Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Ben raison, on bosse fort. Alors, mon cher Mathieu, comme à tous nos amis, je vous annonce une nouvelle test très simple, il fera beau. Voilà, les brouillards qui étaient quand même très présents ce matin sur une partie centrale de la France sont en train de se lever. L'anticyclone pousse par le nord et puis nous avons un ciel qui s'est éclairci. Bon, je sais que c'est pas drôle puisqu'on est confiné, mais enfin on va en profiter quand même de cette belle journée. Il faut vraiment abuser. Mercredi, jeudi, vendredi, 3 journées. De soleil assuré et nous allons donc pouvoir en profiter soit sur nos fenêtres balcons, soit à l'extérieur. Ça y est, je m'en étrangle.
Respirez Laurent, vous n'êtes pas tout seul, hein. Vous savez, vous avez le temps de... Allez, prenez un petit coup d'eau. Allez, c'est reparti.
Heureusement que vous êtes là.
Ça nous arrive
tous. Chers amis, haut les cœurs, allez, 17 à 21 degrés au nord de la Loire, 25 à 29 au sud et je vous souhaite plein de bonheur.
Ben écoutez, c'est une très belle chute, on va se souhaiter plein de bonheur. Et j'ai l'impression qu'on se dit au revoir. Non, la matinée continue, on est ensemble jusqu'à 9h30, on va parler de sport. On s'y remet, toutou youtou, c'est parti, on s'échauffe. Et on est avec Jean-Claude Perrin et Cyril de la Morinerie dans un instant. Bon réveil.
Europe 1. Mathieu Béliard.
Vous êtes sur Europe 1, il est 9h14. Bonjour Cyril de la Morinerie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Cyril de la Morinerie du service des sports de la rédaction, en direct avec nous pour vous accompagner dans la reprise du sport. Jean-Claude Perrin également, coach Perrin, bonjour Jean-Claude.
Bonjour Mathieu.
Oui, parce qu'on est un peu rouillé forcément, ça fait un mois et demi qu'on ne bouge plus beaucoup, on avait besoin de vos conseils messieurs, tous les deux. Accueillons sans perdre de temps Alain qui est avec nous au 39-21 dans un tout petit instant, pardonnez-moi. Simplement un petit rappel réglementaire, je voulais le faire avec Cyril de la Morinerie avant d'accueillir nos auditeurs. On va pouvoir recommencer à pratiquer une activité sportive en extérieur à partir de lundi Cyril.
Oui, exactement. Le sport individuel en plein air est autorisé, sera autorisé à partir donc du 11 mai, mais avec des spécificités, ce sera sans contact. Les sports en salle seront interdits. Ce sera sans attestation cette fois. Vous pourrez vous balader sans attestation, faire du sport, sans limitation de durée de pratique, mais dans un périmètre de 100 km maximum, en limitant donc à 10 personnes le nombre qui vous accompagne pour cette sortie en plein air, avec une distanciation physique très importante à faire entre les personnes, environ 10 mètres ou 4 mètres carrés si vous faites du sport, du yoga par exemple dans votre cours. Il faudra que chaque personne ait 4 mètres carrés d'espace donc pour pouvoir faire ce sport.
En extérieur, et qu'on ne soit pas plus que 10 avec 4 mètres carrés chacun. Alain est avec nous, donc je l'ai annoncé dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Alain.
Oui, bonjour.
Vous êtes président d'un club omnisport, vous?
Alors, je suis président d'un club omnisport qui propose deux activités, le tennis et le hockey sur gazon, donc un sport individuel et un sport collectif. Et donc, bien évidemment, la problématique qu'on a, c'est qu'on prépare l'ouverture possible en attendant de savoir si c'est accepté par les instances régionales, départementales et municipales. Mais les questions...
Pardon, Alain ?
Donc, les questions qui se posent, c'est les suivantes. C'est comment peut-on acceptera-t-on que nous fassions une activité de sport collectif, sachant qu'elle peut être aménagée en respectant la distanciation de 5 mètres ou de 10 mètres. Donc, quelles sont les directives officielles? Car on entend beaucoup de bruits différents entre le ministère, les fédérations.
Pas plus que 10, nous dit Cyril de la Morinerie.
Voilà.
Mais pour le hockey, c'est compliqué.
Alors, c'est compliqué, c'est un sport de contact, Alain. Le hockey sur gazon est un sport de contact, comme le football, comme le rugby, comme un certain nombre de sports. Et tous les sports de contact, pour le moment, jusqu'au 2 juin, parce que le ministère des Sports va revoir ça et son plan à partir du 2 juin, mais jusqu'au 2 juin, les sports de contact sont interdits et il faut que ça soit absolument en extérieur, les sports d'extérieur.
Alors le hockey sur gazon se pratique à l'extérieur et on peut tout à fait travailler, car les entraîneurs ont travaillé sur un protocole précis qui exclurait les contacts, qui mettrait les personnes à distance pour travailler la technique de passe, la technique de éloigner en respectant la distanciation. Donc nous on se pose vraiment la question que si on respecte la distanciation, ça devrait être possible. Tout comme en tennis, on va accepter d'être en simple à 10 mètres de part et d'autre du filet. L'aménagement de nos conditions de pratique du hockey devrait nous permettre. Et c'est une question qu'on se pose parce que les discours qu'on entend sont très, 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 très contrastés.
Alors, merci Alain pour cette double question. Cyril de la Morinerie, pour le tennis, normalement, ça ne devrait pas poser de soucis, du coup.
Oui, alors c'est un peu une usine à gaz, parce que c'est une reprise autorisée, mais sous conditions et beaucoup de conditions. D'abord, il faudra que ça soit sur des terrains extérieurs totalement découverts. Et il faut respecter donc ces consignes, pas de double, pas de jeu au filet. On arrive avec sa tenue de tennis. Pour jouer, il faudra utiliser des balles porteuses d'un signe distinctif. Servir uniquement avec des balles marquées. Il ne faudra pas toucher la balle des autres. Si vous voulez renvoyer la balle, par exemple, qui est par terre, ça sera avec votre pied ou avec votre raquette.
On ne sert qu'avec ses balles.
On ne sert qu'avec ses balles. Il faut arriver avec ses balles. Elles sont marquées avec du feutre. Au changement de côté, il ne faut pas se croiser. Les cours individuels sont autorisés, mais les cours collectifs sont bannis. En clair, si vous avez une petite cour chez vous, vous avez un mur, vous avez une petite raquette, bah peut-être que c'est plus simple de commencer comme ça.
On a le droit de faire un mur.
Bah, c'est ce que je fais d'ailleurs.
Bon, je sens que Cyril a besoin aussi de reprendre une activité physique. Jean-Claude Perrin, coach Perrin avec nous ce matin. D'abord, parce qu'on parle de tennis, on parle de hockey, on parle de sport collectif et individuel. Quand on s'est arrêté, un mois et demi, là, on va y aller doucement sur la reprise. Enfin, moi personnellement, je vais y aller doucement. Il faut faire attention, Jean-Claude, non ?
Oui, bien évidemment. Non seulement il faut être progressif, mais c'est le problème des blessures, parce que vous avez une envie folle d'être dehors, vous avez été enfermé, vous avez été privé, donc psychologiquement, vous êtes heureux de retrouver la nature, de nouveau, le vent, le soleil sur la peau, ça va vous exciter. Donc, si vous en faites de trop, ou si vous le faites avec un tout petit peu d'excès, eh bien, vous risquez de vous blesser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce confinement a entraîné partout, pour tous, un déséquilibre. Et le fait de reprendre, d'aller dehors, quelles que soient les conditions, eh bien, ça va casser, ça va rompre le déséquilibre. Et j'entendais tout à l'heure dans votre émission préalable, les problèmes de poids. Vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas là, si vous avez pris des kilos là. Hélène était très très surprise là de penser qu'elle avait pas fait de sport. C'est pas grave, tout ça va se remettre en ordre, mais simplement il faut être progressif. Le secret du déconfinement, deux choses, Mathieu: le bon sens et être progressif.
Progressif, comme le déconfinement, de toute façon, comme tout le déconfinement, ça sera progressif. Franck est en ligne avec nous. Je remercie Alain, qui était au 39-21 auparavant. Franck est coach sportif dans le 13e arrondissement. Bonjour Franck, de Paris.
Bonjour, je dirige un club de sport, un club de fitness à Paris 13e. Et pour nous, eh bien, chacun comprend que l'on ne peut pas ouvrir nos clubs pour l'instant. Nous n'avons à la fois pas l'autorisation de les ouvrir. Et puis franchement, venir s'entraîner sur un vélo, sur un tapis de course avec un masque, ça ne sont absolument pas les conditions idéales.
Donc, de toute façon, vous n'avez pas le droit. De toute façon, vous n'avez pas le droit d'ouvrir dans l'immédiat. Oui.
Exactement. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est que les pouvoirs publics aident aussi le milieu des clubs de sport. Il y a 4600 fitness clubs. Il faudra relancer la machine. Alors, on nous parle d'hypothétique ouverture au mois de juin avec, pareil, des conditions où, en fait, on utiliserait un appareil sur deux ou sur trois, des vestiaires qui ne seraient pas forcément utilisables, donc des normes d'hygiène qui constituent, c'est vrai, un frein à la pratique. Et puis, un club, c'est avant tout une dynamique, c'est avant tout une ambiance, et c'est vrai que ça place notre secteur dans des conditions très 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 délicates aujourd'hui.
Et dans l'attente, pour le coup, d'une date de reprise. Alors, sur les salles de sport, il y a votre témoignage, Franck. Il y a aussi beaucoup de tweets. Je vois Patchy qui nous dit « Ma salle de sport est fermée, j'aimerais faire du sport à la maison. Que puis-je faire ?» Ça, c'est une question pour Jean-Claude Perrin. J'ai cet autre message qui dit « Je fais du sport dans une salle. À quand la réouverture ?» Pour l'instant, pour ce qui est en intérieur, c'est à la maison, Cyril. On est d'accord, hein ?
Ah ben ça, c'est clair que si vous voulez faire du sport chez vous en intérieur, ça c'est tout à fait possible. Les salles de sport, pour l'instant, vous aviez raison Franck, bien de le souligner, elles sont fermées. Donc ceux qui ont un abonnement dans des salles et qui espéraient profiter du déconfinement progressif pour se remettre en forme sur les tapis de course, sur les vélos elliptiques dans les salles, pour l'instant ce n'est pas possible pour les raisons que vous aviez évoquées. De la même façon, les clubhouse dans vos différents clubs où il y a des restaurants, des bars, les douches, tout ça pour l'instant c'est fermé. C'est-à-dire que si vous voulez faire un sport dans un club en extérieur, vous venez habillé et vous prenez votre douche chez vous, comme les pros d'ailleurs, hein. Les pros dans le football, dans les entraînements par exemple en Allemagne, ils ne prennent pas les douches dans leur club.
Bon, Jean-Claude Perrin, pour les abonnés dans une salle de sport, je garde Franck en ligne avec nous, mais pour les abonnés dans une salle de sport qui veulent tout de même rester, on va dire, actifs aujourd'hui, le sport à la maison, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ?
Eh bien déjà, premièrement, on va avoir la volonté de faire quelque chose. Ça, il faut que ce soit le starter de votre journée. Et surtout, si vous êtes confiné, que ça continue à durer, vous fixez une heure à 9h, 10h, vous mettez en tenue, vous êtes d'attaque, vous avez une pièce, une salle à manger ou un living, quel que soit, un tapis devant vous, vous trottinez sur place, vous faites des assouplissements de façon à ce que le cœur, les grandes fonctions, vous ouvrez les fenêtres, commencent à remarcher. Et puis pour ceux qui ne sont pas tellement spécialisés, eh bien progressivement des flexions, un petit peu de travail latéral pour les cuisses, une bonne séance, c'est des abdômes, des dorsaux, c'est pas dur, on en voit partout, tout le monde sait les faire, et puis n'hésitez pas à téléphoner à nos amis des clubs, même si pour l'instant ils ne peuvent pas ouvrir leur salle, ils vont trouver des solutions pour vous aider.
Donc, justement,
ne baissez pas les bras.
Ne baissez voilà. pas, enfin, baissez-les, levez-les, mais en cadence, ne baissez pas les bras. Franck, tiens, justement, pour vos abonnés en ce moment, vous avez un programme de reprise des choses que vous leur envoyez peut-être pour les conseiller ?
Il existe aujourd'hui sur Internet bon nombre de routines d'entraînement qui sont faites. Beaucoup de cours existent sur Internet et qui sont accessibles vraiment à tous. Donc il y a un très très large choix de panels d'activités. Pour ma part, j'enseigne une technique un tout petit peu pointue qui s'appelle la méthode Feldenkrais et pour laquelle je donne des cours via une application Zoom.
Un mot, Franck, qui
sont partagés aujourd'hui.
La technique comment, pardon Franck ?
C'est la méthode Feldenkrais, c'est une technique d'activité douce, très très soft, qui permet de découvrir son corps et pendant toute la période du confinement, j'offre ces cours pour à la fois faire connaître cette technique et puis parce que je crois que notre environnement a besoin de bienveillance, de chaleur, d'un peu de mobilité active. Et je constate que ces cours s'adressent à des personnes qui n'ont pas l'habitude de bouger, de faire de l'exercice physique, donc c'est bien appréciable.
Merci Franck. Juste une petite question, je sors du débat, je suis infiniment désolé pour les amateurs de sport. Franck, sur ce qui est l'abonnement, le prélèvement mensuel, vous avez suspendu ou vous continuez ?
Alors, nous, très clairement, tous les abonnements seront reportés pendant la période de fermeture, c'est très clair. Donc voilà, et s'il y a eu des prélèvements, parce que parfois il y a des procédures automatisées, elles seront décalées, c'est-à-dire que dans la période
Il y aura
des suspensions de prélèvements également et puis des prolongations d'abonnements pour ceux qui règlent leurs abonnements d'une manière continuelle. Il faut aussi que les bailleurs jouent le jeu et que nous, on est locataire d'un local d'un établissement d'un bailleur social, pardon. Eh bien, il faut que le rôle social de ce bailleur joue dans les deux sens. Et que nous obtenions effectivement des gratuités de loyer pendant la période de fermeture, voire même au-delà pour nous encourager. Mais ça, c'est un débat important et sur le plan national, je crois que le plan du gouvernement ne peut pas servir qu'à payer des loyers
Un petit mot d'économie, parce qu'il y a une économie du sport aussi. Mais merci Franck d'avoir répondu.
Nous avons des emplois, nous avons beaucoup d'emplois.
Mais c'était important de le souligner aussi. Ces salles qui restent fermées sont autant d'entreprises qui sont en difficulté comme tant d'autres. Alors Cyril de la Morinerie et Jean-Claude Perrin, on va terminer. Simplement, je vais vous lire un tweet, celui de Fabrice. Depuis le confinement, je courais une heure tous les matins. Depuis cette semaine, je retourne travailler et je retourne bosser à vélo. J'ai repris des exercices à la maison grâce à des applications d'exercices à la maison. Mais c'est vrai que voilà, dans le travail, peut-être que certains vont opter pour le vélo. C'est un peu d'activité aussi, et ça compte aussi. Merci à tous les deux, Cyril de la Morinerie et Jean-Claude Perrin.
Faites du vélo, ça c'est bien aussi. Très bon.
Je savais que Cyril était à vélo, justement. Quand avant vous veniez à la rédaction, alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez reprendre le vélo, mais c'est tout ce que je vous souhaite, Cyril de la Morinerie.
Merci
beaucoup, Cyril de la Morinerie. Et Jean-Claude Perrin, coach Perrin, ce matin, pour vous conseiller, vous répondre. Vous étiez nombreux, Alain, Franck, Pachi, Fabrice, Débé. Nombreux messages, évidemment, puisque ça vous concerne directement. La matinée continue sur Europe 1 avec Philippe Vandel pour Culture Média. Moi, je serai là demain matin en direct dès 6h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.